Nous allons commencer par la prière. Je vais demander au frère Aurélien de nous diriger dans la prière et puis nous allons reprendre notre étude dans la première épître de Timothée, chapitre 3. Mais prions.
D'accord. Et prions aussi. Père Céleste, nous voulons te bénir, nous te remercions pour nous avoir donné cette occasion de partager ensemble ta parole. Nous nous recommandons à ta grâce. Et te recommandons tous ceux qui nous suivent à travers cette étude. Nous comptons sur ta fidélité et te prions de communiquer à notre esprit tout à son cœur. Merci pour cette opportunité que tu donnes à chacun. Bénis le frère qui nous conduit dans cette étude et que en toute chose, en le seul soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. En son nom, nous t'avons prié. Amen.
Amen. On était en train d'étudier dans 1 Timothée, chapitre 3. Alors, je vais lire du verset 1 au verset 13, puisque dans cette partie de l'épître de Paul à Timothée, il donne des instructions au sujet des évêques, dans les versets 1 au verset 7, et puis dans les versets 8 à 13, au sujet des diacres. Ce sont les deux fonctions que Dieu a ordonnées pour les dirigeants de l'Assemblée. Je sais que dans la religion, les hommes ont inventé toutes sortes de rôles pour des gens, surtout dans la religion d'œuvre. C'est de cette manière que beaucoup de prédicateurs essaient de garder les gens occupés. On leur donne des fonctions, on leur donne une certaine importance dans l'Assemblée, et alors ils pensent par là pouvoir garder des gens et les encourager à venir au culte. Mais telle n'est pas la raison de mettre des hommes dans différentes positions. Vous savez que la manière que les assemblées sont organisées aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ce que nous voyons ici dans la Bible. Le culte est simple. On se réunit dans le but d'adorer le Seigneur, d'écouter la parole inspirée, la lecture publique de la parole et sa prédication fidèle. Et cette responsabilité est donnée aux hommes, non pas aux femmes. On a déjà vu ça dans le chapitre 2 du verset 9 au verset 15, c'est toute une partie où cette instruction est claire que les femmes ne doivent pas diriger l'Assemblée. Cette responsabilité revient aux hommes. Mais ayant dit cela, non pas à n'importe qui. Alors, c'est ici dans le chapitre 3, du verset 1 au verset 13, nous avons ces qualités d'hommes qui doivent prendre la responsabilité. Et nous avons déjà vu la dernière fois la plupart de ces qualités pour les évêques. Ce terme évêque ne doit pas être compris dans le sens aujourd'hui d'un homme s'habiller d'une certaine façon et ayant un titre, une position au-dessus de l'Assemblée. Non, un évêque, c'est un surintendant. C'est quelqu'un qui est parmi l'Assemblée et qui est là pour administrer aux besoins de l'Assemblée. Alors, un homme appelé du Seigneur à Christ dans le salut, et qui maintenant sert le Seigneur dans l'Assemblée. Alors, ce n'est pas l'évêque qui est maître de l'Assemblée, mais plutôt un serviteur qui s'occupe des besoins de l'Assemblée. Et puis, ensuite, aujourd'hui, nous avons devant nous l'autre fonction, et c'est celle du diacre. Et nous allons voir même le sens du mot diacre dans la Bible est différent que ce que nous voyons dans les établissements religieux. Aujourd'hui, de la manière que les diacres sont nommés et qu'ils fonctionnent, je dois dire que ce mot diacre surtout dans le verset 8, si vous voyez ça dans l'original, c'est le mot ministre, c'est un serviteur. Et Paul lui-même se donnait cette fonction, il parlait de son ministère comme serviteur de Jésus-Christ. Alors, même pour les diacres aujourd'hui, la manière que les églises sont organisées, les assemblées, ce n'est pas selon la parole. Et nous allons voir ça ensemble. Mais lisons d'abord ce texte dans 1 Timothée 3, à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux de dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, nous voyons ici les deux responsables de l'Église, évêque et puis diacre. Et si on compare les qualités de chacun, on doit dire que les qualifications sont pareilles. Il faut que ce soit des hommes à qui Dieu a donné cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ, mais de ne pas être un nouveau converti. Souvent, quand le Seigneur convertit un homme, cet homme est zélé d'une manière extraordinaire à cause d'être un nouveau converti. Et vraiment, l'Esprit en lui agit de manière qu'il veut, il veut témoigner à tout le monde de cette œuvre de Christ en lui, de cette œuvre de grâce. C'était comme ça même au temps de Christ. Je pense particulièrement du démoniaque qu'il a guéri et qui voulait suivre Christ partout. Et Christ lui a dit de rester, retourner chez lui et de parler à sa famille et de leur dire tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors, on ne doit pas prendre quelqu'un qui est un nouveau converti, mais qui a toujours besoin d'apprendre et de croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi c'est précisé dans le verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Nous savons que même si l'Esprit convertit un pécheur et que celui-là est tourné vers Christ dans la repentance et la foi, que la chair est toujours là. La chair n'est pas morte. Et aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, la chair vit. Alors il y a toujours ce danger d'être enflé d'orgueil, puisque pour être évêque, c'est une responsabilité parmi l'assemblée, mais c'est une responsabilité aussi de dirigeance. Alors, on ne doit pas donner ça à un nouveau converti. Alors, il y a ici vraiment des instructions précises et nous n'avons pas besoin d'autres bases d'autorité que la parole inspirée de Dieu. Où il y a des problèmes, c'est quand les hommes commencent à écrire et à donner des interprétations diverses au sujet de la Bible et ces assemblées qui existent maintenant s'organisent d'une manière différente que ce que nous voyons écrit ici dans les Saintes Écritures. Notre base, notre seul fondement et autorité en tout ce que nous faisons doit être cette parole inspirée. Alors pour cela, je veux que nous regardons ce qui est indiqué ici. Alors dans le verset 4, c'est écrit qu'il doit être éprouvé d'abord et cela commence dans sa propre maison. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Alors cela ne veut pas dire que tous ses enfants doivent être d'abord convertis. Si tel était le cas, je ne serais pas moi-même qualifié d'être responsable d'église, parce que quoique mes enfants ont été élevés tous sous l'écoute de l'Évangile, aucun de mes enfants n'est converti. Chacun suit sa propre voie présentement. Je prie toujours pour eux et je sais que si Dieu les a choisis et que Christ est mort pour eux, alors, dans son temps, il les attirera. Mais pour le moment, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas de preuves qui sont vraiment du Seigneur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand c'est écrit ici qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission? Cela parle de la manière que nous devons éduquer nos enfants. Et pendant qu'ils sont chez nous, de leur donner la parole et les apprendre à se soumettre à l'autorité des parents, comme père, tel père, telle mère, de suivre les instructions. Parce que si un homme ne sait pas garder ses enfants dans l'ordre, la question est bien posée, comment est-ce que celui-là bien diriger l'assemblée. Alors, c'est pourquoi c'est mieux d'attendre et ne pas rapidement mettre des hommes dans ces positions parce que ils doivent d'abord être éprouvés dans ce sens simple de la diligence dans le foyer. Si un homme ne sait pas diriger sa maison, comment est-ce qu'il peut diriger dans l'assemblée? Alors, je crois que cela est assez simple. Et on a déjà vu dans le verset 6 qu'il ne soit pas un nouveau converti. Ça suppose déjà qu'il est converti. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prêchent, des hommes qui prêchent aujourd'hui, qui ne sont pas convertis. Cela étonne le monde quand on dit cela, mais la preuve est en voyant autour de nous, dans les autres assemblées où l'Évangile n'est pas prêché. Il y a la raison pour laquelle l'Évangile n'est pas prêché, c'est que les hommes eux-mêmes qui dirigent ces assemblées, et aujourd'hui même, il faut dire les femmes qui dirigent ces assemblées, parce qu'on donne ces rôles aux femmes, contrairement à ce qui est écrit dans la Bible, mais la raison de ce désordre, c'est que c'est des hommes religieux, mais qui ne sont pas convertis, qui sont encore dans les ténèbres. Il faut dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dû confronter de tels hommes dans son jour quand il était sur la terre. Ils appelaient ces hommes des sépulcres ouverts, où en dehors, ils paraissaient C'est plus que paraissait beau, mais dedans, c'était plein des ossements. Cela veut dire qu'ils étaient encore morts spirituellement sous les ténèbres de leur péché. Alors, ici, ça suppose déjà que ça soit des hommes convertis, parce qu'il dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Un converti, c'est un pécheur pour qui Christ est mort et que l'Esprit de Dieu maintenant a fait naître de nouveau. C'est ce que Christ a dit à Nicodème quand Nicodème s'approchait de lui dans Jean chapitre 3, que il fallait naître de nouveau. Et Jean 3, le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, le sens là dans l'original, c'est naître d'en haut, ça c'est une œuvre de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu, voir spirituellement. Celui qui est le roi, que Dieu le Père a établi comme roi, qui règne présentement, ça c'est Christ, il ne pourra pas voir ce royaume-là sans naître de nouveau. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont en train d'enseigner aux hommes ce qu'ils doivent faire pour naître de nouveau. Mais c'est comme la naissance physique. Je suis né sans que moi-même je n'ai eu aucune responsabilité pour cela. Cela est venu de Dieu et c'est dans le même sens spirituellement. Naître d'en haut, naître par l'Esprit de Dieu. Alors, ça, c'est une qualité qui est nécessaire pour quelqu'un d'être responsable d'église. Ce n'est pas simplement une profession de foi, mais une foi révélée. La foi est un don de Dieu. La repentance est un don de Dieu. Et cela doit être évident dans la vie de quelqu'un avant qu'il ne prenne la charge d'une assemblée quelconque. Alors, c'est pourquoi Paul dit cela dans 1 Timothée 3, 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut là se rappeler de la chute d'Adam au départ, dans Genèse chapitre 3. C'est l'orgueil qui a poussé Adam à laisser Ève parler avec le serpent, qui était en fait le diable rusé, qui séduisait la femme. Et Adam se taisait, il ne disait rien. C'est par là que le péché entrait dans le monde. C'était Adam qui était responsable pour les actions de sa femme. En quelque sorte, il était là comme un représentant, un évêque. Ouais, un surveillant, c'est Dieu qui l'a placé dans le jardin pour s'occuper de ce que Dieu a créé, mais dans l'orgueil, il a dévié. Alors, c'est à cela que Paul parle maintenant ou écrit à Timothée de faire attention, de ne pas que ce soit un nouveau converti qui chute encore dans le même sens que Satan a fait chuter Adam. Alors c'est aussi pour nous qui sommes là en tant que responsables. Nous sommes des hommes avec la même nature pécheresse. Et si Dieu ne nous garde, nous serons aussi enflés d'orgueil. Alors c'est pour cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu de diriger l'assemblée de Dieu, les brebis, d'une manière humble et de soumission, se rappelant que nous-mêmes, nous sommes de même nature de ceux à qui nous prêchons. Dans Galates chapitre 6, je crois que c'est une bonne illustration de cela lorsque Paul écrivait aux Galates et il leur enseigne dans le verset 1, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, cela veut dire vous qui avez l'Esprit de Dieu, redressez-le mais notez bien, avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, voyez, de peur que tu ne sois aussi tenté. Alors, nul d'entre nous, quelles que soient les années que nous avons prêchées, ou bien que le Seigneur nous a convertis, nul d'entre nous ne peut dire qu'il n'est pas dans la position des autres de chuter. Nous sommes des pécheurs par nature, donc c'est notre nature de pécher et de chuter. Alors prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et combien de soi-disant pasteurs, de dirigeants d'église qui prêchent et qui dirigent comme si ils ne peuvent jamais avoir de faute. Et quoi que les autres voient leur faute, eux-mêmes, ils sont aveuglés en ce qui concerne leur propre faute et leur propre péché. Alors nous aurons besoin de la grâce de Dieu en toutes choses de nous diriger afin que nous gardions toujours cet esprit humble. Et c'est vraiment l'esprit par sa grâce qui nous donne cet esprit-là. L'apôtre Pierre, en écrivant son épître dans 1 Pierre, chapitre 5, nous donne ces mêmes instructions. Il dit, voici, dans le verset 1, les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Ce mot ancien, c'est le même que nous avons ici, évêque. Ancien dans le sens, pas de l'âge nécessairement, mais spirituellement, mûr. Moi, ancien comme eux. Mais ce que je voudrais que vous voyez, c'est que dans le verset 1, c'est écrit « qui sont parmi vous ». Nous n'avons jamais imaginé que nous avons une position au-dessus de l'assemblée, non? Parmi l'assemblée. Nous sommes des brebis comme des brebis. Parmi des brebis, si nous sommes du Seigneur, il n'y a qu'un seul berger en tant que tel, et c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais dis, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, vous voyez, quelqu'un ne peut avoir cette responsabilité dans l'assemblée qui n'est pas témoin des souffrances de Christ. Bien sûr, nous n'étions pas là comme Pierre pour voir Christ crucifié devant ses propres yeux. Mais si l'Esprit de Dieu s'est révélé en nous, nous sommes témoins des souffrances de Christ. L'Esprit de Christ nous est donné pour connaître notre besoin en tant que pécheurs et de regarder vers Christ et Christ crucifié, de voir Christ comme l'agneau de Dieu immolé et que c'est par sa mort que nous tenons devant Dieu comme des saints, justifiés par son sang. Cette justice qu'il est venu accomplir, Dieu, à cause de son œuvre, l'œuvre de Christ parfaitement accomplie, il impute cette justice à tous ceux pour qui Christ est mort. C'est pourquoi nous sommes justifiés. Ce n'est pas dans nos œuvres, ce n'est même pas par notre foi. Mais c'est dans celui qui est l'objet de la foi, qui est Christ. Alors, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Participant comment? C'est l'Esprit qui nous unit à Christ, qui est la gloire de Dieu. Et nous attendons son retour. Mais en attendant, nous sommes déjà glorifiés avec lui. Paul, en écrivant aux Éphésiens, dans Éphésiens 2, indiquer que nous sommes assis avec Christ dans les hauts lieux, dans les lieux célestes. Ouais, notre position est déjà là. Alors, participant de la gloire qui doit être manifestée. Mais notez bien dans le verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu. » Ce n'est pas nos membres, ce n'est pas notre assemblée, ce n'est pas notre église, comme des gens signifient ou parlent. C'est le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Voilà le sens du mot évêque, un surveillant. Imaginez avoir un troupeau qui est mis sous notre garde, mais il n'y a qu'un seul berger. Seulement, nous nous occupons de son troupeau en attendant son retour. Alors, c'est pour ça que nous devons prendre ça au sérieux. Ce n'est pas à nous de diriger comme nous voulons, mais diriger selon la volonté de Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons connaître cette volonté? C'est écrit. Nous avons entre nos mains la parole inspirée. Et c'est par là que nous devons prendre nos instructions. Mais, vous voyez, non par contrainte, mais volontairement. Ça, ce n'est pas une obligation. On n'a pas besoin d'être obligé de diriger une assemblée. Telle n'est pas la qualité de quelqu'un qui est appelé, comme nous avons déjà vu dans 1 Timothée chapitre 3 et le verset 1. C'est écrit, « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Si c'est une contrainte, donc évidemment, celui-là ne doit pas être dans cette fonction. Alors, mais volontairement, c'est Dieu qui agit dans la volonté de vouloir servir le Seigneur de cette manière. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est selon Dieu. Vous voyez ça dans le verset 2, 1 Pierre 5, 2. Selon Dieu. Dieu place des hommes où il veut, dans les assemblées comme il veut, et au moment où il veut. Il se peut que pour un certain temps, il suscite certains responsables et puis il les enlève. Ça, c'est selon sa volonté, c'est son œuvre. Et nous ne devons pas imaginer qu'une fois que nous avons certains hommes en certaines positions et l'organisation est faite, que voilà, alors ça ne va jamais changer. Non, c'est selon Dieu qui fait croître son assemblée comme il veut, et il fait disparaître. Il faut connaître qu'il n'y a aucune de ces églises établies à travers la prédication de l'apôtre Paul qui n'existe aujourd'hui. Ils sont tous partis. Même quand on lit dans le livre d'Apocalypse, dans les premiers chapitres, ce sont des avertissements aux sept églises qui existaient à l'époque, de ne pas se détourner de l'évangile, sinon Dieu enlèverait le chandelier. Enfin, ils étaient placés là pour un certain temps comme la lumière, pour éclairer les gens dans ces localités au sujet de l'évangile. Mais après un certain temps, Dieu a fait disparaître ces assemblées. Et il faut se rappeler que même nous sommes aussi mortels. Nous ne sommes pas là pour toujours. Et même dans cette assemblée que je dirige ici à Shreveport, il y a très peu d'hommes qui m'aident dans ce ministère. Même après 20 ans de prédication ici, il n'y en a pas. Je vois autour de moi peut-être 2 ou 3 hommes à qui je donne quelques responsabilités de temps en temps. Mais pour la prédication de l'évangile, la dirigeance, il y en a qui se demandent déjà, si Ken n'est plus là, qui va prêcher? Et il se peut que, selon la volonté de Dieu, que cette assemblée ici à Shreveport n'existe pas plus que le temps que je suis encore en vie. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. Pour couper le micro, Koulibaly. Voilà. Alors, enfin, c'est de pouvoir nous rappeler encore dans 1 Pierre 5, le verset 2, que tout cela, c'est selon Dieu, et non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Quand ça parle d'un gain sordide, cela veut dire que nous ne devenons pas pasteurs ou responsables d'église afin de gagner notre vie en faisant cela. Je sais que ici à Shreveport, l'église me donne un petit soutien, Mais ce n'est pas pour ça que je prêche. Je travaille en dehors de l'assemblée, comme tout autre, pour pouvoir aux besoins de ma famille. Et je dédie tout mon temps à prêcher l'évangile volontairement et volontiers, ouais, puisque c'est le fardeau que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais je ne le fais pas pour avancer ma vie avec des richesses et de pouvoir gagner ma vie de cette manière. Je préfère, comme l'apôtre Paul, travailler avec mes mains afin de ne pas être à la charge de qui que ce soit. Alors, c'est de cette manière, je crois que nous tous, nous devons œuvrer dans ce champ du Seigneur. C'est pour le Seigneur. Et c'est écrit dans le verset 3, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors revenons dans 1 Timothée chapitre 3. C'est pourquoi j'aime lire les Écritures, parce que le meilleur commentaire sur les Écritures, c'est les Écritures, ce sont les Écritures elles-mêmes. Ouais. Alors, c'est la même chose que nous voyons ici dans 1 Timothée 3 et le verset 6, qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Même dans la prédication, il y a un vieux qui m'a rappelé de cela. Il a dit, le Seigneur m'a suscité pour prêcher pour l'assemblée et non pas à l'assemblée. Il y en a qui imaginent qu'ils ont une parole du Seigneur et ils vont se lever et prêcher à l'assemblée. Cela veut dire adresser cette parole aux autres. Non, nous prêchons pour l'assemblée. C'est un privilège de se lever et ouvrir cette parole et enseigner, instruire l'assemblée. Mais ce n'est pas notre assemblée, c'est l'assemblée du Seigneur. Alors c'est un homme parmi l'assemblée à qui Dieu donne ce privilège, cette grâce de pouvoir enseigner dans l'assemblée. Ouais. Et puis dans le verset 7 d'1 Timothée 3, ça c'est important, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Un homme ne doit pas se cacher dans l'assemblée et vivre d'une manière qui n'est pas approuvée même de ceux qui sont dehors. Cela veut dire qu'ils ne sont pas encore convertis, les gens qui sont dans la communauté. Et pour moi, ça c'est aussi important que de la manière qu'un homme vit dans l'assemblée. Comment est-ce qu'il vit face à ceux qui sont au dehors? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un bon citoyen? Est-ce qu'il paye ses bons? Ouais. Comment est-ce qu'il traite les gens du monde? Est-ce que c'est d'une manière supérieure, puisqu'il imagine qu'il connaît le Seigneur, mais eux, ils sont perdus? Ouais. Il y en a qui ont cette attitude-là. La grâce est pour eux, un sujet d'orgueil. Alors, tel ne doit pas être le cas. Et souvent, pour moi, puisque je travaille dans le monde, je reconnais que le monde me regarde parce qu'ils savent que je suis un prédicateur et je ne cache pas ce fait. Alors, même maintenant avec l'Internet, les gens peuvent aller voir ce qui est posté sur Facebook ou bien il voit même mes messages, tout ce que je prêche et sur l'Internet. Et les gens peuvent faire des recherches. Alors tout cela compte devant le monde pour que le monde puisse voir de quelle manière le Seigneur me dirige ou dirige quiconque. Nous savons qu'il y a des prédicateurs qui n'ont pas ce bon témoignage, soit dans le sens d'être des hommes qui poursuivent les richesses de ce monde ou même qui sont en train de poursuivre des femmes du monde ou bien d'autres qui sont même adonnés au vin. On peut imaginer toutes sortes de choses qui causent le blasphème en ce qui concerne l'Évangile. Et pour cela, nous devons demander le Seigneur de nous garder, comme c'est écrit, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, tel est le cas pour les évêques. Maintenant, dans le verset 8, comme je disais au départ, nous devons prendre soin des mots qui sont écrits. Et ici, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Vous voyez dans le verset 8, je crois que ce sont les manières que nous devons avoir un bon témoignage de ceux du dehors, mais aussi de ceux dans l'assemblée. Mais le point que je voudrais que vous voyez, que nous voyons, c'est que ce mot diacre, cette fonction de diacre, il s'agit d'être un ministre du Seigneur Jésus-Christ. Et quand c'est écrit éloigné de la duplicité, cela veut dire ne pas être hypocrite, de dire une chose et vivre d'une autre manière, ou bien de prêcher d'une manière dans un contexte, mais arriver devant d'autres de prêcher d'une autre manière. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui était un diacre du Seigneur Jésus-Christ, ouais, souvent dans les assemblées, on établit des hommes et leur donne ce titre de diacre. Et leur responsabilité, selon les organisations modernes, c'est qu'ils comptent peut-être l'argent dans les offrandes. Ce sont des gens qui s'occupent de vérifier que quand c'est le moment de célébrer la table du Seigneur, qu'ils préparent les éléments. Enfin, c'est de cette manière qu'on appelle les hommes de diacre. Mais ce que je voudrais que vous voyez, selon le terme biblique, c'est que c'est un homme qui prêche l'Évangile parmi l'assemblée. Alors les évêques, ils enseignent la parole dans l'assemblée, mais ils ont la charge de la surveillance de l'assemblée. Les diacres sont plutôt ceux qui non seulement ils prêchent dans l'assemblée, mais ils vont dans le monde prêcher, comme l'apôtre Paul. Il était un diacre du Seigneur, et vous pouvez prendre une concordance et voir de telle manière, il utilise ce terme par rapport à son ministère. Alors c'est pour ça que je voudrais que vous voyez la différence. Si vous êtes en train de vous déplacer et prêcher dans différents lieux, l'évangile de Christ, vous agissez dans cette fonction de diacre, ministre. Ça c'est le terme, ministre du Seigneur. Et il s'agit d'un ministère, comme c'est écrit dans le verset 10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. C'est le même mot, diacre. Et quand c'est écrit là, verset 9, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Le mystère de la foi, c'est un synonyme pour l'évangile. Donc on peut lire ça de cette manière, conservant l'évangile dans une conscience pure. Cela veut dire que nous ne sommes pas de ceux qui vont pervertir l'Évangile, changer le sens dépendant du contexte ou des hommes devant qui nous sommes. Non, nous devons avoir un seul message partout. Il y en a dans des organisations missionnaires et surtout dans des écoles de théologie. Ils vous apprennent comment aborder les musulmans, comment aborder les témoins de Jéhovah, comment aborder les catholiques, comment prêcher quand on est devant des païens. Mais en fait, il n'y a qu'un seul message. On ne change pas de message. Et c'est pourquoi dans le verset 8, c'est écrit, éloigné de la duplicité, de prêcher d'une manière aux juifs et maintenant prêcher d'une autre manière aux païens. Non. L'apôtre Paul, qui était un diacre du Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il disait, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé, notez, vous annoncer le témoignage de Dieu. Ce que nous avons ici dans la Bible, c'est le témoignage de Dieu au sujet de son Fils, le Saint Jésus-Christ. Et ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que nous devons prêcher ce message. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'aller dans une école de théologie pour apprendre à prêcher. Souvent, là, on vous apprend comment établir une ébauche et comment choisir des mots particuliers pour rendre le message agréable à l'auditoire. Mais Paul dit, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car, verset 2, 1 Corinthiens 2, 2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons la personne de Christ et nous prêchons son œuvre accomplie pour ceux que le Père lui a donné. Ce message, nous n'allons pas prêcher dans le but de convaincre le monde. Même Christ, dans Jean 17 et le verset 9, disait, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. » Alors, nous visons uniquement les élus de Dieu. Nous ne savons pas qui ils sont, mais en prêchant, nous n'avons qu'un seul message. C'est Christ et Christ crucifié. Et il dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. » Vous savez, c'est de cette manière que nous prêchons. Nous sommes dans un corps où la chair nous prend en piège, si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Nous sommes des pécheurs qui nous prêchons aux autres pécheurs perdus, dans l'espoir que Dieu, dans sa grâce, attire ceux qui lui appartiennent, ceux pour qui Christ a payé la dette au calvaire. C'est tout. Et ce n'est pas à nous d'essayer de convaincre des hommes à faire des invitations, à supplier des hommes, de prendre une décision. Ça, ce n'est pas le message de l'Évangile. Nous sommes dans un état de faiblesse. Et il dit de crainte et de grand tremblement. Pourquoi? Pas à cause d'une peur des hommes, mais la crainte de Dieu, sachant que le message que nous apportons, c'est pour la gloire de Christ et de Dieu. Et c'est à nous maintenant de livrer ce message tel que Dieu le décrit ici dans les Écritures. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Dans les écoles de théologie, on vous apprend à préparer des sermons. Ce sont des discours persuasifs. Mais ce n'est pas de cette manière que l'Évangile est prêché. C'est de la manière que je suis en train de vous enseigner ici. Prenant cette parole dans toute sa simplicité, expliquant les mots et enseignant verset par verset. Je crois que c'est de cette manière que nous devons prêcher. Prendre un livre, comme nous sommes en train de faire, de 1 Timothée, cet épître, et d'aller verset par verset. Ce n'est pas de sauter ici et là, enseigner des sujets quelconques, non. Garder cette parole pure en prêchant ce qui est écrit, ne reposant pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça m'étonne toujours du fait que Dieu puisse prendre une simple parole prêchée, comme je fais chaque semaine et comme vous faites là dans le milieu où vous êtes, et que c'est l'Esprit qui prend sa parole, cette parole de Dieu, ce n'est pas notre parole, mais cette parole de Dieu, et qu'il convainc les pécheurs, il tourne leur cœur endurci envers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est écrit afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je ne veux pas que les hommes soient méconvertis. Quand j'entends certains parler de cette manière, disant, oui, mais c'est quand Ken a prêché que j'ai vu la lumière et c'est grâce à Ken que je suis aujourd'hui un disciple de Christ. Je dois les arrêter là pour dire, bon, si vous êtes mon converti, alors Cela veut dire que vous êtes encore dans les ténèbres. Ce que je veux entendre, c'est que Christ lui-même s'est révélé en moi. Et j'ai vu mon état de péché par sa grâce. Et c'est Christ lui-même dans sa toute-puissance qui a tiré mon cœur envers lui. Voilà un véritable témoignage. Ce ne sont pas nos convertis, mais les convertis de Christ. Alors je voudrais m'arrêter là pour cette semaine afin de laisser chacun de vous aussi partager selon la manière que Dieu, par son esprit, est en train de vous enseigner. Et nous allons reprendre cela la semaine prochaine. Je voudrais vous montrer d'autres versets de la Bible qui affirment cette interprétation du mot « diacre » dans le verset 8. Quand vous voyez le mot « diacre », il faut comprendre « prédicateur »,« serviteur ». Et je crois que c'est clair même dans le contexte « conservant le mystère de la foi ». Ça, c'est ce qu'est l'Évangile, c'est un mystère. La révélation de Christ, ça exige l'Esprit de Dieu de révéler Christ. Et c'est le mystère de la foi. La foi, dans ce contexte, il ne s'agit pas là d'une croyance personnelle, mais il s'agit du contenu de l'Évangile, dont Christ est l'objet de cette foi. C'est comme Jude a écrit dans son épître, cette foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints, cela veut dire à ceux qui sont les sanctifiés, ceux qui sont justifié par le sang de Christ. Il appelle ça, il dit, un combat pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette foi, c'est objectif, c'est le fondement de l'Évangile, c'est Christ révélé dans l'Évangile. Et conserver, voilà le rôle d'un diacre, ouais, combattre pour la foi, c'est ce que nous faisons quand nous prêchons, dans une conscience pure. Vous avez une conscience purifiée par l'Esprit, une conscience qui n'est pas attachée à un message d'œuvre. On ne peut pas mélanger le message d'œuvre et de grâce. Nous prêchons la grâce de Dieu uniquement en Jésus-Christ, sans condition, placée sur l'homme. Et toute la condition accomplie par Christ lui-même. Mais Dieu voulant, nous allons revenir sur ça la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous avez ou bien quelques commentaires que le Seigneur a placé sur votre cœur? Je vais maintenant ouvrir le micro pour ceux qui ont peut-être quelque chose à ajouter.
Oh. Allô?
Oui, vas-y.
Moi, je voudrais être sûr.
Oui.
Alors, je suis content et j'apprécie surtout votre franc-parler, votre franchise, vraiment, parole, et dans le message. Cela me plaît beaucoup. Mais je voudrais intervenir sur quelques points.
Oui.
Par exemple, quand on dit que le Seigneur de Dieu est approchable et qu'il dirige bien sa famille, si nous voyons cela, vraiment, vous n'êtes pas aussi le seul à être disqualifié. Mais beaucoup d'autres pasteurs, et même moi aussi, je me vois disqualifié. Je vous dis, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup de responsables d'église, beaucoup qui sont acharnés dans le travail de Dieu, mais qui ont des enfants délinquants. Je vous explique trois cas. Adam, par exemple, peut-être le frère Amédée, connaît le prophète, mais tous ses enfants sont devenus des délinquants. Et surtout, ils volent encore les objets des pasteurs qui vont loger à l'église. Vraiment, c'est triste. Et il sert encore, il sert bien le Seigneur Jésus-Christ. Il est le pasteur principal. Bon, à Gaillois aussi, un pasteur principal aussi, qui a appelé sa fille, hospitalisation à cause d'une grossesse imprévue. Et il continue de prêcher à Sikasso, au Mali. J'ai croisé aussi les mêmes cas. Le pasteur principal, ses enfants sont des Soula et des drogueurs. Et je prends l'exemple sur mon cas. Mon soeur que j'ai fait venir et que j'ai enseigné dans la parole de Dieu, qui était parmi les premiers, Il a brusquement abandonné la foi quand il est allé voir mes parents au Mali. En voyant les richesses, il est venu se plaindre de moi que vraiment, papa, c'est toi qui as trahi tes parents. Alors, tu ne devais pas devenir chrétien, tu devais rester musulman. Alors, tu as une mauvaise philosophie. J'ai dit, ah, tu me prêches maintenant cette philosophie. Alors, moi qui t'ai enseigné, hein, qui t'ai formé, qui t'ai conduit jusqu'à ce que tu aies le bac, tout ça. Alors, tu juges maintenant ma philosophie fausse. Et il est devenu musulman. Quand je vois tous ces faits, je vois que réellement, l'homme ne peut rien sans le pas le Christ. Alors, nous devons nous soumettre souvent à sa volonté. Ne pas être déçus. Nous devons continuer à persévérer, à prier, à prier pour eux, même ceux qui sont dans la même situation. Parce que Dieu peut faire paraître un jour la lumière. Alors, la seconde remarque, c'est que vraiment, nous devons aussi reconnaître le mauvais comportement de certains responsables d'église, de certains pasteurs qui ont un mauvais témoignage ou qui donnent même de mauvais enseignements. Je ne dis pas forcément que ce sont les causes principales, mais nous devons des fois sonder nos cœurs, nos cœurs de sanction. On m'exprime en troisième position, je m'exprime souvent en fonction de mes propres expériences. C'est un nouveau converti. Je reconnais réellement que le nouveau converti est fougueux. Il est fier de sa nouvelle conquête. Et il laisse facilement basculer par l'orgueil. Et même son esprit d'insuffisance sans Christ. Alors moi-même, je suis empirique, je suis tombé un peu, je suis tombé dans ce fléau. Et je me suis confessé, je me suis repenti, j'ai été victime même des cas comme ça. J'ai chuté pendant les premières années de conversion. Donc, c'est une parole vraie, une parole certaine. Alors, aujourd'hui, si Dieu s'est servi de ça pour nous montrer que je suis insuffisant, voilà ce que je voudrais ajouter à ce partage. Enfin, Père vous bénisse. C'est en fonction de mes propres expériences que je vous parle.
Oui,
Merci.
merci bien. Non, c'est bien dit. Quant à
Merci,
nous,
Pierre.
personne ne peut être qualifié. Même dans l'Ancien Testament, quand on voit l'état de David, on voit même Samuel, ses propres fils, qui ne suivaient pas la voie du Seigneur, et Élie, le souverain sacrificateur, c'est à cause de ses enfants et du jugement de Dieu sur la manière que ses enfants dirigeaient dans le tabernacle qu'il a fait enlever l'arche, a mis ça dans la main de l'ennemi pour un certain temps. Il y a des conséquences. Néanmoins, ça ne change pas le fait que, étant des hommes et surtout des pères, des responsables de l'Église, nous devons diriger nos foyers d'une manière sobre, tout en priant pour nos enfants et avec une certaine discipline. Les cas dont tu parles là, je dirais, c'est le problème, c'est avec le père, c'est l'homme dans le foyer qui agit mal et les enfants voient sa manière, leur manière de vivre et alors ils agissent d'une manière pire. De tels hommes ne doivent pas être dans la prédication ou le ministère dans ce sens. Et il faut dire que ces cas que tu cites, je me demande bien si même ces hommes ont eux-mêmes une connaissance du véritable évangile. Ce sont des gens qui ont été formés comme pasteurs et alors ils agissent de cette manière et pour cela ils n'ont pas, envers ceux qui sont dehors, un bon témoignage. Le problème c'est que, à la base, ils ne sont pas eux-mêmes convertis. Alors, Amédée, je pense que tu allais ajouter quelque chose.
Oui, moi je voulais ajouter quelque chose parce que, en fait, quand tu dis cette parole, moi ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, j'ai compris la différence entre un évêque et puis le diacre. Pour voir véritablement ce qu'on nous a enseigné dans la religion, il y a une très 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 grande différence. Et puis, effectivement, il faut comprendre aussi, tout à l'heure quand tu parlais, tu as dit que Il y a des gens qui disaient, oui, quand c'est quelqu'un qui parle, ils aiment ça, tout ça. Mais en fait, effectivement, on a eu ce problème-là aussi, ces pensées-là aussi. Effectivement, après ton départ de l'église de Gagnoa, on avait du mal à accepter ou bien à recevoir d'autres prédicateurs. On dit, mais ceux-là, ils ne prêchent pas comme Ken, comme Ken le faisait. Alors là, je peux avouer que ça, c'était une très grande erreur, une très, très, très grande erreur, à commencer par moi-même d'abord, une très grande erreur. Au lieu de dire que oui, qu'elle nous présente un bon sauveur, que Dieu a suscité un véritable prédicateur pour nous annoncer le seul vrai évangile, pour nous orienter vers Christ. Et là, on était là pour dire oui, c'est Ken qui prêche bien, moi j'aime l'évangile de Ken, ou bien l'homme blanc, là, quand il prêche, bon. Et là, aujourd'hui, on comprend, au fur et à mesure qu'on étudie les Écritures, le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre que de ne pas s'attacher à l'homme, parce que Ken est un canal par lequel le Seigneur passe pour révéler sa parole, pour révéler son évangile. Et moi, je voulais dire que, pour ajouter dans le même sens que Koulibaly, il ne faudrait pas qu'il prenne les illustrations concernant les hommes de la religion, les gens qui sont dans la religion. Aujourd'hui, Dieu nous montre le seul vrai évangile. Et que les hommes religieux, ils ont toujours leur façon de faire, qui n'est pas la réalité. Or, nous devons comprendre que Dieu est souverain et que le fait que nous sommes attachés aujourd'hui à l'évangile, c'est par la grâce de Dieu. Voilà. Dieu n'est pas obligé, il n'est pas obligé de sauver toute l'humanité, même nos parents. Et moi, je comprends, moi, tu as déjà connu la première chute. Et aujourd'hui, je suis là, à travers cette technologie, en train de suivre le cours de formation continue, en train d'écouter la parole de Dieu. Je vois que le Seigneur est vraiment souverain et que dans son plan, il y a d'autres qui ont abandonné l'évangile, qui sont restés, qui ont abandonné le seul vrai évangile et qui sont restés, qui sont morts. Et si Dieu m'a révélé encore l'évangile, m'a remis sur le chemin, je pense que ça, c'est la souveraineté et la grâce de Dieu. Alors, pour revenir au passage du chapitre 3, quand on parle de l'évêque, effectivement, on voit dans la religion que les gens, ils pensent par des gens qui sont habillés par des vêtements spéciaux et qui ont une responsabilité à qui on doit respecter, mais qui sont loin de la parole de Dieu, qui ne prêchent pas fidèlement l'évangile.
Ouais.
Voilà. Donc je pense que la semaine prochaine encore, il faut qu'on revienne là-dessus. Parce que moi, je n'avais jamais pensé qu'un diacre, on voit aujourd'hui dans la religion, les diaconesses, les diacres, que ça signifiait ministre, prédicateur,
C'est ça.
des gens qui devaient conserver fidèlement le mystère de la foi. Et dans une bonne conscience et pure. Ouais. Donc, je pense que nous remercions vraiment le Seigneur d'avoir mis cette technologie qui nous rassemble autour de sa parole et qui fait que nous sommes attachés à l'évangile, sans hypocrisie, et nous écoutons véritablement le seul vrai évangile. Mais ce n'est pas un évangile de Ken, ce n'est pas un évangile d'un homme blanc, non, c'est l'évangile du Seigneur Jésus, que nous devons comprendre que c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui nous l'a révélé,
Amen.
et qui suscite des véritables prédicateurs, et qui nous annonce l'évangile.
Amen.
Voilà ce que moi je voulais dire.
Amen.
Merci.
Oui, merci
Amen.
pour cette intervention. Vous savez que c'est pour ces raisons que j'ai gardé ma distance pendant des années, surtout pour l'œuvre en Afrique, quoique mon cœur est attaché depuis le départ. Mais le Seigneur m'a enlevé de là il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant pour une raison. Et c'est afin que les hommes, leur confiance, leur foi ne se repose pas sur Ken, mais sur Christ. Et c'est à travers les années qu'on voit de telle manière que le Seigneur lui-même a purifié, a purgé ces assemblées-là pour que des hommes comme toi, ou même Aurélien, d'autres qui étaient avec moi, Koulibaly au départ, enfin, si nous sommes encore ensemble aujourd'hui, c'est parce que c'est le Seigneur qui a tourné nos cœurs et non pas parce que Ken a fait quoi que ce soit. Et même Jean-Baptiste, lorsque son seul message c'était voici l'agneau, mais les gens sont venus auprès de lui dans Jean chapitre 3 et ils ont dit Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. ils parlent, ils sont venus à semer un peu de jalousie entre Jean-Baptiste et Christ. Et Jean-Baptiste répondait dans le verset 27 de Jean 3, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Et il dit, « Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. » Et puis il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, je crois que cela représente l'attitude même de ceux qui vont entendre et qui entendent l'évangile de vos bouches. Il y en a qui vont vous suivre puisqu'ils aiment votre manière, mais on doit tous toujours appeler à ceux qui nous écoutent que, comme Jean-Baptiste disait, il faut que Christ croisse et que nous diminuons. Alors, j'apprécie beaucoup cette intervention et, Dieu voulant, effectivement, la semaine prochaine, nous allons revenir sur le diacre et leur rôle en tant que prédicateur, ministre de l'Évangile. Alors, Pessy, je vois que tu as ton micro ouvert. Tu as quelque chose à ajouter?
Bon, moi seulement, j'aimerais poser une petite question à propos d'un question. Voilà que tu travailles avec un pasteur qui est ton pasteur principal depuis 5 ans. Et maintenant, tu découvres qu'il n'a pas un bon témoignage à travers ceux qui sont à l'extérieur de la l'église. Comment est-ce que tu peux t'engager? Tu vas le quitter ou bien tu vas continuer à travailler dans l'intention de changer son comportement? Ou bien comment est-ce que tu peux, je ne sais pas, comment tu vas quitter l'église? Ou bien tu seras toujours sourire pour voir s'il peut changer, Dieu peut le changer en priant toujours? Ou bien comment est-ce que tu peux s'y prendre, quoi?
Quant à moi, il faut toujours regarder au Seigneur pour la réponse. Mais si je suis, et il faut dire que j'étais moi-même dans ce cas, il y a bien d'années, lorsque le Seigneur commençait à m'apprendre l'Évangile, j'étais sous la tutelle d'un autre pasteur, mais c'est le Seigneur qui a emmené une séparation, puisque, comme la Bible dit, comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble qui ne sont pas d'accord? Alors, il se peut que, enfin, on ne peut pas changer le comportement de quelqu'un, et si ce pasteur, surtout, n'est pas en train de prêcher l'Évangile tel que nous sommes en train de le voir ici. Donc, tu ne pourras pas apprendre sous sa tutelle. Et il se peut que maintenant, c'est le Seigneur qui va agir de manière à te séparer de lui et de fonder une œuvre sur le véritable Évangile. Parce qu'on ne peut pas avoir de mélange. Imaginez si tu as une voiture. Il y a le mélange pour certains moteurs, mais on ne doit pas prendre le mélange et mettre ça dans une voiture qui a besoin d'une certaine manière d'essence. Autrement, ça bloque la voiture. Et je vois que c'est une illustration en ce qui concerne l'Évangile. On ne peut pas œuvrer avec ceux qui d'abord ne vivent pas selon l'Évangile, mais aussi qui pervertissent l'Évangile. Je dois prier pour toi dans ce cas parce que c'est là que vient la séparation maintenant par rapport à la parole de Dieu. Mais on ne peut pas changer d'autres. Seulement, nous devons nous soumettre à cet évangile et regarder vers le Seigneur de nous diriger.
Allô?
Oui, vas-y, Aurélien.
Oui, merci. Je voudrais remercier vraiment chacun pour leurs interventions. Et la préoccupation de Itine tout à l'heure confirme un peu ce que j'avais à souligner par rapport à cette étude, par rapport à ce chapitre 3. En fait, il faut que nous remarquons que l'unicité de la fonction ici est surtout le caractère, c'est-à-dire la singularité de l'œuvre dont il est question. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul dit ici que cette parole est certaine d'avoir dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Nous avons déjà fait allusion à cela dans le chapitre 1er, que la qualification des qualifications pour un responsable d'église, c'est ça que Paul a dit, c'est la révélation de Christ qui s'impose à notre cœur, à notre ministère pour sa communication. Donc, il y a par rapport à cela, ceux qui, comme Paul l'utilise ici, le mot c'est très important, il y a ceux qui aspirent à la charge. Et dans le premier chapitre, nous avons vu qu'il y a aussi ceux qui veulent être docteurs de la loi. Et c'est une attitude d'abord qui révèle deux choses. L'apôtre Paul utilise le même mot que ce que Dieu a dit par rapport à la femme. Son désir se tournera vers l'homme, mais il dominera sur toi. Et ceux qui veulent ou aspirent à cette charge doivent savoir qu'ils sont en train de courir après la charge de quelqu'un d'autre qui devrait s'imposer à eux. Nous sommes appelés en réalité à nous soumettre à Christ. S'il y a un évêque ou encore un surintendant ou un surveillant, il est seul et son œuvre est unique et c'est l'œuvre de Dieu.
Amen.
Et c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous aspirons à la charge, ça veut dire que nous devons reconnaître que ce n'est pas notre charge, que nous voulons porter sur nous la charge de quelqu'un d'autre. Et avons la responsabilité de nous soumettre à celui-ci dans ce que nous faisons. Ainsi, il n'y aura pas un chef qui va nous dicter ce que nous devions faire ou ne devions pas faire si réellement Dieu nous a appelés et établis dans cette fonction. Donc, c'est lui qui nous a chargés. Et c'est sa charge, ce n'est pas notre œuvre, et ce n'est pas des œuvres ou des fonctions. C'est une seule œuvre, et c'est l'œuvre de Dieu.
Amen.
L'œuvre de Dieu pour laquelle Paul disait qu'il y a d'autres qui voulaient occuper cette fonction, tombent dans des discussions inutiles, qui n'avancent pas l'œuvre toujours au singulier dans la foi. Donc il y a l'œuvre de la foi, l'œuvre de Dieu, et Dieu lui-même est le surintendant. Le chef, l'autorité auquel tout le monde doit se soumettre. Et maintenant, lui, il établit, selon sa fidélité à lui, certains à cette fonction. Donc, il ne s'agit pas d'aspirer. Le fait d'aspirer, d'abord, révèle que nous voulons, comme je viens de l'aider, nous occuper de la charge et de la fonction de quelqu'un d'autre qui devrait s'imposer à nous. Secondement, ça montre également que ce n'est pas... c'est un mauvais désir, quelque part. C'est-à-dire, nous... Et si nous ne sommes pas appelés, établis, c'est là où nous commençons par aspirer à quelque chose qui ne nous appartient pas. Et à partir de ce moment, je vous fais remarquer un peu le temps que l'apôtre Paul a utilisé dans la qualification. Et j'aime beaucoup, je remercie beaucoup le frère Ken pour le titre. Il s'agit de la qualification ici et non de critères à respecter pour se voir serviteur de Dieu ou évêque. Parce que quand on parle de qualification, il ne s'agit pas de quelque chose que nous allons faire, par exemple, avoir une seule femme, être hospitalier et dire, bon, du coup, je suis serviteur de Dieu, évêque. Absolument pas. La qualification
non.
est très différente de critères qu'on veut respecter ou bien on se voit dans les critères pour dire je suis. Donc, il s'agit donc de la fonction et de la qualification de Christ, de la charge de Christ et du fait que nous devons être subordonnés à cela. Ici, par exemple, l'apôtre Paul a utilisé un verbe très important. C'est l'impératif continu. Il dit, il faut donc que l'évêque soit. Ça veut dire que ce que Dieu est, ce que Dieu fait, c'est à cela que nous sommes, nous nous soumettons, si c'est lui qui nous a établis. Et nous ne devons pas nous conformer ou bien vouloir respecter un homme, qui qu'il soit, missionnaire, chef, révérend, il n'est pas celui qui nous charge et ce n'est pas sa charge. Ce n'est même pas notre charge pour que nous essayons de la modeler sous quelqu'un. C'est l'œuvre de Dieu et ça ne doit pas être changé. Et nous devons, si Dieu nous a établis, nous devons être conscients de cela. Et ça demeure un impératif continu que c'est Dieu qui veille sur son Église et la chair, les critères humains ou les avantages humains n'entrent pas en jeu. Ainsi, l'apôtre Paul a très clairement démontré cela et prouvé quand il a parlé de diacre. Parce qu'en réalité, quel que soit ce que nous sommes dans l'Église, que nous soyons appelés à être fidèles au ministère établi par Dieu, ou que nous sommes des esclaves ou serviteurs dans l'Église à qui on a confié des responsabilités dans l'Église, nous sommes tous des diacres. Et là, c'est un peu différent. On a dit les diacres aussi doivent être honnêtes. Là, il est question de devoir. Mais pour l'autre, il est question de rester soumis à ce que Dieu lui-même il fait et révèle à travers son Fils. Donc, je veux vraiment que nous constatons cela, et même si Dieu nous a établis sous sa charge, ou que nous avons une fonction de responsabilité dans l'Église, nous sommes amenés à conserver un mystère, le mystère de la foi. Respecter la foi, respecter l'autorité qui doit être, qui dirige même le pasteur. Et l'Église, que ce soit la femme ou l'homme, doit respecter cette même autorité. Ouais. Et tous ensemble, nous sommes esclaves, donc diacres, sous cette autorité, et le mystère de la foi doit être préservé. Bien donc, c'est pour cela que j'affirme qu'il ne s'agit pas pour quelqu'un, parce qu'on a dit mari d'une seule femme, par exemple, et il ne faut pas prendre dans le sens d'avoir une seule femme, parce qu'en réalité, si l'Église conserve le mystère de la foi, celui qui est chargé doit toujours se voir soumis à Christ, vous voyez, qui est marié à une seule Église.
C'est ça.
Et c'est ainsi que les enfants et la maison sont gardés dans la soumission et l'honnêteté. Il ne faut pas que nous comprenions mal cela. Tenir ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, c'est en réalité que l'autorité du Seigneur soit imposée à tout le monde. Que nous soyons enfants du pasteur ou pas, que nous soyons diacres ou simples serviteurs, je ne sais quoi, et la seule autorité auquel tout le monde est soumis par la foi, c'est Jésus-Christ. Et l'homme doit lire cette autorité et doit voir que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'Église, l'homme qui est responsable doit lire cette autorité, et la femme doit lire ce Christ dans l'homme, et tout ce qui reste doit rester soumis ainsi, suivant cette autorité. Donc, c'est cette autorité-là qui doit être respectée. Il n'est pas question pour un responsable d'église, par exemple, de commencer par respecter l'autorité de l'enfant, ou un responsable d'église de commencer par respecter l'autorité d'un pasteur qui n'est pas la charge de la direction de l'église. Mais il faut laisser l'Évangile s'imposer à tout le monde. L'Évangile doit s'imposer d'abord à nous-mêmes, parce que Christ est notre chef. Tout comme Christ lui-même n'a pas fait sa volonté et il a regardé le Père, et s'imposer à notre femme et s'imposer à tout autre membre. Et c'est un devoir pour tous ceux qui sont sous le service de Dieu en tant que diacre, esclave, n'est-ce pas, de vivre éloigné de duplicité, d'éloigné dans l'excès du vin, de gain sordide, et conserver le mystère de la foi. Mais si quelqu'un est appelé réellement, et quoi qu'il est établi par Dieu, pour une seule œuvre, l'œuvre de Dieu, et non notre œuvre, l'œuvre de Dieu dans la foi et pour la foi, et sous Christ, dont la personne et l'œuvre a parfaitement accompli cela, celui-là doit se voir entièrement sous cette autorité, et tout le monde, jusqu'à lui aussi, doit pouvoir imposer cette autorité à tout homme. Donc nous n'avons pas cette capacité de redresser nos enfants pour dire qu'ils sont enfants de Dieu, ou de nous redresser d'une certaine manière, prenant les qualifications comme critères et se voir marié à une seule femme, ou bien honnête, ou bien toi, et se voir à travers ces critères-là, la qualification qui est unique, exclusive et réservée à Christ, dont tout serviteur de Dieu doit continuellement et impérativement se voir là-dedans. Donc, nous n'allons pas faire effectivement cette confusion ici, puisque l'apôtre est clair là-dessus. Quand il s'agit des diacres, il a dit les diacres aussi. Et là, vous avez remarqué qu'il n'a pas dit « il faut ». Ou bien il aspire, mais il dit doivent. Et là, effectivement, c'est un devoir qui s'impose. De l'autre côté, si vous n'êtes pas appelé, ce qui montre que Dieu ne vous a pas chargé, c'est le fait que vous aspirez. Si Dieu vous a établi, vous n'avez pas vous aspirer à quelque chose. Maintenant, si Dieu vous a établi, ça veut dire que son autorité entièrement s'impose sur vous et par la prédication fidèle de l'évangile, vous imposez par cet évangile à tout le monde. Même les chefs hiérarchiques, soi-disant, qui vous ont amené. Et c'est ce que j'apprécie, étant. Parce qu'il y a, quand il était avec nous, comme quelques-uns l'ont dit, il y avait la révélation de Jésus-Christ. Il y a la fidélité à la prédication de Jésus-Christ qui ne respecte pas l'opinion, la pensée des autres. Et comme je sais, moi aussi, ils subissent des choses pour ça. Mais il y a aussi d'autres qui, suivant ça, ne voient pas l'autorité auquel le serviteur de Dieu, même s'il est blanc ou noir, est soumis, pour s'identifier à cette autorité et se soumettre à lui. Il voit une personne, il dit, quand quelqu'un parle, c'est mieux. Quand quelqu'un parle, c'est mieux. Quand elle est partie, ils ont disparu. Ils ont changé de message parce qu'ils ne sont pas impérativement sous l'autorité qui conduit le serviteur de Dieu. Ouais, donc ne restons pas dans des critères dans lesquels nous nous voyons ou dans une responsabilité, une chaîne qui n'est pas à nous, pour attirer les hommes à nous, ou bien pour finalement confier Dieu sous d'autres personnes qui n'aiment pas Christ. Ouais, je tiens vraiment à souligner ça, vous allez remarquer que l'apôtre ne mâche pas ses mots. Tout ce qu'il dit est précis. Et depuis le chapitre 1er, il est en train de parler de manière à ce que le combat de la foi avec un cœur pur soit soutenu. Et il est dans les mêmes démarches. Que la femme reste soumise à l'homme et écoute l'instruction en silence. Que l'homme reste soumis à Christ et s'identifie à lui. Tout comme Christ lui-même, quel que soit ses avantages, ses privilèges sur le plan terrestre charnel, est resté soumis à Christ. Et Jean-Baptiste aussi, le pasteur qu'elle a souligné tout à l'heure, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Un serviteur de Dieu qui parle comme ça, tous ceux qui sont sous lui, jusqu'à sa maison, sont obligés de se soumettre à Christ. Et je crois que c'est là, tenir ses enfants dans la soumission et dans une parfaite obéissance et honnêteté.
Ouais.
Bien. Donc, vraiment, c'est une occasion pour nous de voir les Écritures et de voir à quoi nous sommes appelés réellement et quelle est notre responsabilité en tant qu'humains dans l'église du Seigneur. Et si Dieu nous a établis, quel est notre devoir? Maintenant, si Dieu ne nous a pas établis, pas question d'aspirer simplement, ou bien si vous le faites, là, il faut être Christ à part entière et faire l'œuvre de Christ exactement comme ça. Et c'est ça ce qui s'impose à notre foi et non à notre vie terrestre et charnelle.
Merci bien.
Merci vraiment beaucoup.
Oui, oui. C'est bien dit. Vous savez que si nous sommes en serviteur de Christ, c'est Christ qui nous dirige. Et Paul a dit ça aux Galates, que si on veut être serviteur des hommes, on ne pourrait pas être serviteur de Christ. Mais pour terminer aussi, lorsque tu donnais ton intervention, le Seigneur m'a orienté encore vers 1 Pierre chapitre 4 et le verset 10. Nous ne sommes que des dispensateurs de la grâce de Dieu. Oui. Nous ne sommes pas des chefs en tant que tels. Nous sommes des dispensateurs, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Et comme tu l'as dit, le don que nous avons reçu, que ce soit l'enseignement de nos enfants, ou que ce soit l'enseignement dans l'Église, le don que nous avons reçu, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et nous sommes des dispensateurs de cette grâce. Et c'est avec cette attitude que nous le servons. Bien, je dois devoir couper là, puisque les autres m'attendent pour la réunion au Malawi. Mais je remercie le Seigneur pour ces occasions de nous retrouver autour de la parole, et nous allons reprendre ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour cette étude, pour chacun que tu as fait en sorte que nous soyons ensemble aujourd'hui. Merci pour ces frères à qui tu as appris cet évangile et que tu continues à enseigner, moi-même inclus. Quelles que soient les années que j'étudie cette parole et que je prêche, j'ai besoin toujours d'être un disciple, un étudiant au pied de Christ, et que lui-même, il soit le maître, que lui-même, il nous enseigne. Alors, continue à nous garder par ta grâce, donne-nous ton esprit de comprendre ta parole et de l'annoncer, de dispenser fidèlement ce qui est écrit, quelle que soit la réaction des hommes. et que tu prépares nos cœurs d'abord afin que nous soyons capables de prêcher aux autres. Alors, nous te remercions et Seigneur, nous te prions de nous garder durant cette semaine et de nous ramener encore la semaine prochaine ici pour pouvoir continuer cette étude. C'est dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Amen.